コウモリマスはマネ、おかしじゃないもあり、マーレナズワニコウモリザワコウモリ。
Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Je réagis aux propos du député Floch qui a dit il suffirait qu'une case brûle. Est-ce que M. Moustamadi, le maire de Brandélet, lui a raconté comment les employés communaux ont brûlé les cases d'Anjouanais dans le petit village d'Amoureau le lundi 27 octobre 2003 et j'aimerais aussi savoir où en est l'enquête promise par M. Jean-Jacques Brault, alors préfet. Le préfet qui ne s'exprimait pas autrement que le maire que nous avons entendu en début de semaine. Je vous invite d'ailleurs à rechercher dans les archives de RFO, enfin Radio Mayotte, les interventions du préfet à propos des clandestins en fin 2003. Pour ma part, c'est ce que j'appelle souffler sur le confetti explosif. C'était Corinne en Centre-Bretagne.
Bonsoir Daniel Mernet, voilà, juste pour te féliciter pour l'émission concernant la République fédérale des Comores. C'est un coin de l'océan Indien que les gens, les Français surtout, connaissent très peu. Moi-même, j'y ai vécu 2 ans. Je me suis marié, mon épouse, il est d'origine donc d'Ngadidja, là. Il formait part de ce que tu appelles les immigrés clandestins de Mayotte. On a eu 13 enfants, très beaux enfants franco-comoriens. Et donc, c'était pour te dire que j'apprécie beaucoup la valeur de ces Comoriens, quoi, surtout ceux de la grande île, d'Ngadidja, qui ils sont très nombreux en France, qui font beaucoup de travail chez nous, on les retrouve un peu partout. C'est eux qui travaillent dans les restaurants, qui travaillent à la SNCF pour nettoyer les trains, tu les verras un peu partout, hein. Ils sont très travailleurs, c'est des gens d'une extrême gentillesse, sont très solidaires, c'est des gens qui font vivre les Comores grâce à leur travail ici comme immigrés en France, ils font vivre les Comores qui est un pays très pauvre, ils renvoient beaucoup d'argent là-bas qui permet de tenir les pays à bout du bras et puis d'éviter de sombrer dans la pauvreté les gens qui sont là-bas. Je voulais te remercier aussi pour pointer du doigt les drames épouvantables qui signifient les départs en Kwasa Kwasa, en barque, là, en barque Yamaha, comme on dit, d'Anjouan vers les Comores, où les gens, de temps en temps, c'est noir, c'est affreux. La pauvreté est telle en Jouan, et puis même dans les autres Comores, que les gens ils sont prêts à tout, même à laisser leur vie pour s'en sortir de la misère. Par contre, je ne suis pas d'accord politiquement sur moi avec toi, du fait que, bon, les choses qui se sont passées comme ils se sont passées, sûrement, c'était pas dans l'intérêt de la République ni dans l'intérêt des Français. Mayotte, ça coûte très cher au budget de la République. Il y a beaucoup de millions d'euros qui partent là-bas pour essayer de remonter et de mettre à niveau ces petits territoires d'Afrique. Mais bon, les choses sont ce qu'elles sont. Il devait y avoir sûrement des intérêts à l'époque pour que Mayotte reste rattachée à la France. C'est passé comme il s'est passé. Par contre, il serait complètement démagogique et puis injuste de rattacher Mayotte à la République fédérale des Comores parce que les Maoris, ils veulent pas. Toi, tu dis que c'est sûrement intéressé. Certes, c'est intéressé. C'est pas pour patriotisme français, mais on peut pas vouloir à ces gens-là de vouloir sortir de la misère, de vouloir aller de l'avant. Et pour les Maoris, la France est un bouée de sauvetage. Il faut voir comme il était l'île il y a 20 ans hein, et comme il est aujourd'hui. Alors, ça peut faire sourire quand tu interviews des gens qui te disent « Oui, on voudrait que la France recolonise les Comores ». Bon, c'est un peu ridicule aussi, mais à se demander politiquement qu'est-ce qu'ils ont gagné les Comoriens avec l'indépendance. Ils ont gagné l'indépendance, qui est quelque chose qui est très important, mais franchement, au niveau économique, au niveau des infrastructures et tout cela, oui, les Comores, oui, ça sombrait dans les néants, et c'est dommage, parce que les Comoriens méritaient beaucoup mieux que ça. Merci pour ton émission encore une fois à nouveau, parce que c'est une très belle émission concernant Mayotte et ça méritait d'en parler un peu pour que les Français ils sachent qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui se passe là-bas, Mayotte et les Comores. Au revoir et bonne soirée.
Merci pour ces messages sur le répondeur de la Bassifissio au 01 56 40 37 37. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages concernant cette histoire de Mayotte et des Comores, des messages de Comoriens, des messages d'habitants de Mayotte et de ceux qui y sont allés et de ceux qui visiblement commencent un peu à comprendre depuis le début de la semaine qu'on est là-bas, qu'on explique, qu'on essaye de faire comprendre ce qu'on a cru comprendre aussi, il faut bien dire la vérité. Et alors voilà, je ne sais pas si ça intéresse tout le monde, parce que c'est quand même un sujet compliqué, passionnant. Passionnant, nous on s'est passionné pour ce sujet, tellement il est compliqué, tellement c'est paradoxal, tellement la solution, les solutions ne semblent pas du tout évidentes, comme ça, a priori, ceux qui... On luttait contre la colonisation, l'esprit colonial, etc. se trouve un peu pris en porte-à-faux par cette histoire de Mayotte. Tout le monde évidemment s'accorde à dénoncer la xénophobie, l'exclusion, le racisme exacerbé par certains. À Mayotte et jusqu'en métropole, bien évidemment, tout ça c'est minable, condamnable et hélas lié aux campagnes électorales dans lesquelles nous entrons. Mais néanmoins, les solutions ne sont pas faciles ni aisées. Et c'est pour ça peut-être que c'est passionnant après tout. Hein, les choses sont passionnantes. Alors passionnantes pour nous de loin, mais sur place, surtout du côté évidemment comorien, c'est beaucoup de souffrance comme cette auditeur vient de le dire. On a des messages très longs qui nous arrivent sur ce sujet. Hélas, on ne pourra pas tous les passer. Dans les jours qui viennent, on fera peut-être une heure spéciale avec tous ces messages. En tous les cas, évidemment, on vous remercie. On salue les habitants de Mayotte chez qui il est 2 heures de plus. La nuit est tombée hein, à Mayotte et sur cette partie du monde. Voilà, aujourd'hui, on continue la balade à Anjouan avec justement ceux qui partent à bord de ces bateaux. Et puis aussi avec des gens d'Anjouan, des Comoriens d'Anjouan qui ont des opinions, des jeunes qui ont des opinions différentes sur leur pays, sur l'avenir de leur vie, tout simplement. Ceci après les messages que voici au 01 56 40 37 37, c'est-à-dire le numéro du répondeur de la base où j'y suis.
Ouais, ça va, c'est Philippe. Ben, je suis à Mayotte là, depuis presque 6 mois, là, je suis en vacances. J'habite dans un bled paumé où je reçois pas France Inter, mais heureusement qu'il y a Internet. Alors, je voulais un peu, parce que j'ai eu le temps de bouquiner, de voir des gens, participer à des magnifiques, quoi. Et un peu d'histoire, quoi, sur ce qu'a oublié un peu Mermet, quoi, mais bon, pas grave. Je veux dire qu'avant 75, ce qui s'est passé, c'est que la France avait absolument besoin des Comores, parce que c'était un point géostratégique, c'est-à-dire qu'on contrôlait tous les tankers, vu que le canal de Suez était fermé, on contrôlait tous les tankers qui arrivaient d'Arabie Saoudite, tout ça, les gros tankers, c'était un méchant contrôle, quoi, vu qu'il n'y avait pas encore beaucoup de satellites. Puis après, 75, quand il y a eu la réouverture du canal de Suez, puis qu'on a commencé, tout le monde était d'accord pour que les Comores soient indépendants. Quoi. En plus, il y avait plein de satellites, donc plus besoin de cette petite île-là, où il n'y avait rien, même pas de pétrole. Alors, les élus des Comores étaient d'accord, tous, sauf les Mahorais, puis les élus Mahorais qui ont tout fait. Ils ont fait des manifs, ils ont fait des pressions sur le lobby RPR et la communauté pro-coloniale en France, tout ça. Puis ils ont gagné, ils sont restés français, c'est comme ça. Et puis, depuis, il y a une rivalité entre d'un côté les Mahorais, puis de l'autre côté les Comores, et puis les Comores qui se sont enlisés à cause aussi de la France, dans un état qui où il y a eu plein de bordel. Et puis en 97, ils sont même tous séparés. Puis même là, un truc marrant, c'est qu'en 97, il y a eu Moali et Anjouan qui sont devenus indépendants, qui ont voulu être indépendants, même qui ont demandé de se rattacher à la France, qui n'a pas voulu, et qui a rejoint un comité international en faisant le block-out d'Anjouan et de Moali en disant « vous devez rejoindre les Grandes Comores, point barre ». Ce qu'ils ont fait en 2001 en créant une nouvelle constitution, puis maintenant c'est un pays fédéral, style américain, avec un gouvernement fédéral et les îles qui sont autonomes. C'est ce qui est symptomatique. Il y a 2 mois, il y a eu un volcan qui a fait éruption aux Grandes Comores. Et ils ont eu plein de problèmes, dont le problème de l'eau, quoi. Bah, ici, à Mayotte, il n'y a pas eu de grands élans de solidarité d'association, quoi.
C'est le caractère pauvre des Comores. Et que cette pauvreté n'est pas un hasard. Je ne connais pas beaucoup de pays qui peuvent survivre après 25 coups d'État et tentatives de coups d'État. Parce que les Comores n'ont jamais eu le temps de s'organiser ni politiquement ni économiquement. Donc c'est une politique de déstabilisation orchestrée, organisée par la France avec son soutien bien sûr, puisque tous les coups d'État ou presque ont été organisés en France par des mercenaires français et qui ont aussi assassiné des présidents comoriens sans pour autant être inquiétés aucunement. Donc ce que je ce que je voulais dire en définitive, c'est je m'adresse à l'administration coloniale française à Mayotte, qui doit comprendre que les Comoriens ne sont pas des clandestins à Mayotte, dans la mesure où la frontière fictive imposée par la France n'est pas reconnue par le droit international, et que tout déplacement par la force d'une population à l'intérieur d'un même pays est un crime contre l'humanité. C'est l'article 7.1d, 7.2d du traité de Rome de 2002, dont la France est signataire. Donc moi, je peux dire que j'ai honte pour la France, un grand pays, pays des droits de l'homme, d'abuser de son droit de veto contre un petit pays comme les Comores aux Nations Unies.
Bonjour aux auditeurs et à toute l'équipe. Nous sommes des étudiants en travail social. Nous sommes en train d'apprendre, à nos dépens, que le social peut rimer avec commercial. Attention, à nos dépens, mais aussi aux vôtres. Les travailleurs sociaux ne sont pas juste des contrôleurs de tickets de caisse et des méchants qui placent vos enfants à la DAS. Si aujourd'hui notre école devient une entreprise, demain, vous comprendrez que les clients ne sont pas toujours les rois. C'est le monde idéal que nous propose notre nouveau directeur. Les gens qu'il veut virer, ce sont nos formateurs. Ce sont ceux qui nous apprennent à vous voir comme des êtres humains et pas comme des clients. Si ce que vous voulez, c'est qu'on soit rentable, alors il n'y a pas de problème. Nous, nous refusons cette technique de tueur. Si la différence entre l'usager du service social et le client d'une entreprise ne vous semble pas claire, nous, nous avons un avis sur la question. Contrairement à notre directeur qui s'en fout, ça vous intéresse peut-être. Alors, à vos stylos, nous vous donnons rendez-vous vendredi 13 janvier 2006 de 9h30 à 18h à l'IRTS, Institut Régional du Travail Social, au 145 avenue Parmentier, dans le 10e arrondissement, métro Goncourt, ligne 11. Daniel, si tu ne sais pas quoi faire avec ton équipe, on vous attend aussi. Salut!
Salut Christophe, salut Daniel, bonsoir à tous les auditeurs et tout particulièrement à ceux d'entre eux qui nous écoutent le long de la frontière entre la Belgique et la France, de la ligne de démarcation hein, où d'un côté on plante des chicons et de l'autre côté des endives. Je voulais juste vous passer un message pour vous rappeler que nous avons la deuxième réunion des amis de là-bas si j'y suis qui se tient en Belgique à Tournai et qui aura lieu ce jeudi 12. Elle aura lieu à 19h et on va se retrouver dans le bistrot qui se trouve au centre du village et qui s'appelle Le Repère. J'espère qu'on se rejoindra nombreux et qu'on passera bien sûr une agréable soirée. Bon vent à tous et à bientôt. Salut.
Je rappelle pour le repère de là-bas, j'y suis à Ploubalay, donc à Ploubalay dans les Côtes d'Armor, entre Dinard, Saint-Malo, Dinan. Donc la prochaine réunion aura lieu le mardi 31 janvier, donc toujours chez Marie et Pierrot, au Penalty, à Ploubalay. Voilà. Merci, au revoir.
Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Mayotte.
Qu'est-ce que vous faites à Mayotte? Les gens se humilient à Mayotte. Faut pas aller s'humilier à Mayotte.
Comment arriver à soi-même? Les mots allés dans Gazidja, la maore dans Zouani.
Salut, c'est Daniel Mermel, là-bas si j'y suis avec Guy Ventil, Mayotte, un confetti explosif.
On est sur cette plage avec ces bateaux de pêche à balancier là, qui sont des bateaux creusés dans les troncs d'arbres, hein, des vieux bateaux rafistolés. Il y a un peu d'ombre quand même parce qu'il y a un baobab, il y a quelques palmiers. Puis là, il y a les gens du village, il y a les pêcheurs. Et puis là-bas, il y a tous les, comment on va les appeler, les clandestins, les illégaux, comme on veut. Enfin, en tous les cas, c'est pour l'instant, c'est les habitants d'ici, c'est les habitants d'Anjouan qui vont partir, qui s'apprêtent à partir. Et ils sont là-bas, on les aperçoit, il y a tout un groupe qui s'apprête à partir, qui attend. Et puis il y a le bateau, le quoissa-quoissa, comme ils disent là, qui manœuvre au large, on se demande bien pourquoi. Et on va voir combien de personnes vont monter à bord, mais il faut imaginer combien ça fait de long sur cette barque.
5 mètres de long.
5-6 mètres de long.
Et là-dessus, ils vont monter, ça paraît invraisemblable, mais ils peuvent arriver à monter jusqu'à 30 personnes, 40 personnes. Et voilà, et c'est tous ces gens qui sont en train d'attendre là-bas de partir.
Depuis lundi, que nous présentons ces reportages, il y a eu deux accidents, deux naufrages de ces bateaux, de ces petites barques, c'est quoi ça, entre Anjouan et Mayotte. Et il y a eu plusieurs morts depuis lundi. Et c'est comme ça, à longueur d'année. Depuis 1995, on évalue, on avance le chiffre de 5000 morts dans ce bras de mer entre Anjouan et Mayotte. Alors on parle de bombes migratoires. On parle de bombes migratoires autour des confettis de l'Empire, comme on dit, c'est-à-dire en Guyane, c'est-à-dire ici à Mayotte, c'est-à-dire en Guadeloupe. Et ailleurs d'ailleurs, loin de la métropole, loin de nos soucis, de ce qui capte notre attention à longueur de journée, eh bien il y a ces flux grossissants d'immigrés que certains s'ingénient à présenter comme menaçants, ces étrangers, vous savez bien, noirs en plus, qui viennent jusque dans nos bras égorger nos filles et nos compagnes. Donc on peut toujours exploiter ce mythe de l'invasion, du risque, de la menace. On va assister à une exacerbation de plus en plus grande dans les mois qui viennent de ces peurs très 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 anciennes. Et on les exploite bien aussi à Mayotte. On les a exploités à l'automne dernier, et ça a donné des incidents qui, évidemment, vu d'ici, vu de Paris, vu de la métropole, semblent bien secondaire, mais qui quand même localement inquiète beaucoup, et qui pourrait effectivement devenir très très explosif, tant il y a de différences sociales tout simplement entre Mayotte, la française, et les trois îles des Comores. Donc là, on est à Anjouan, on est sur une des plages du sud de cette île, de cette petite île triangulaire, d'où il fait une chaleur épouvantable, très dur, il fait très dur, il y a un ciel gris comme ça, parce que c'est la saison des pluies, et ben voilà, il y a des candidats au passage clandestin qui sont sur la grève, et qui s'apprêtent à monter dans l'un de ces navires. Je parlais de baobab, là, il y a des gros baobabs sur la plage, et puis il y a ces bateaux, non pas ceux qui font la traversée, mais des bateaux de pêcheurs qui sont là, des bateaux à balancier. Et ça fait penser à l'arbre et la pirogue. Ça fait tout à fait titre de roman de voyage chic avec état d'âme, etc. Non, l'arbre et la pirogue, c'est à la fois une image, un mythe et une réalité. La réalité, c'est qu'on fabrique les bateaux, ces bateaux de pêche dans les arbres, dans le tronc des arbres. Hein. C'est toujours le tronc des arbres qui sont creusés pour fabriquer ces bateaux de pêche. Mais évidemment, l'arbre, c'est le symbole de l'enracinement, c'est le symbole de l'ici, c'est le symbole de nous sommes chez nous. Et puis la pirogue, c'est le symbole d'aller là-bas, d'aller voir là-bas si on y est. Et bien ça, c'est l'arbre et la pirogue. Il y a des îles du Pacifique, notamment au Vanuatu, où nous étions il y a quelques années. L'arbre et la pirogue, c'est carrément un culte. C'est un culte, on fait un culte à l'arbre et à la pirogue. L'arbre comme symbole de l'endroit où l'on vit, on aime à vivre. Quand on est un insulaire, l'île protégeant. Mais il y a une nécessité à aller voir là-bas si on y est, parce que l'île, l'insularité, l'insulitude, comme on a pu dire, eh bien c'est un facteur de sclérose. De sclérose intellectuelle, spirituelle, culturelle, commerciale, biologique même peut-être, d'où la nécessité d'aller voir là-bas, d'aller à l'horizon, d'aller voir comment sont les autres, qui sont les autres, que font-ils, il y a déjà cette première nécessité. Et ça, c'est une chose qu'on comprend quand on voyage dans le Pacifique. Et c'est quelque chose qu'on comprend même ici, dans l'océan Indien, entre Madagascar et le Mozambique. Entre ces îles, il y a ces liens profonds. Il y a l'arbre. On veut vivre autour de son arbre. On veut vivre sous son arbre, là où les vieux, le soir, à la fraîche, se réunissent pour parler. On voit ça dans les villages de Mayotte et des Comores. Et puis, mais dans cet arbre qui est le symbole du chez-soi, eh bien, on taille aussi les bateaux pour aller voir là-bas. Et c'est ce lien qui profondément est coupé entre les Comores, les trois Comores et l'autre île Mayotte, la quatrième île depuis 1975. Et c'est ce lien qui, d'une manière obscure, inconsciente peut-être, est en train de se renouer sous nos yeux, dans l'âme, dans les regards et dans les cœurs de ceux qui vont s'embarquer. Comme nous, jusqu'à 18h, là-bas, si j'y suis, Mayotte, un confetti explosif.
En nombre chinoise à l'autre bout de la plage, là. Les gars, ils sont en train de faire la queue en attendant de charger dans le bateau. Ils sont pas très chargés, t'as vu, ils ont un minimum avec eux, c'est un petit baluchon.
Non, il y a 40, là.
Alors voilà, c'est le dernier qui arrive à partir, mais le bateau est déjà chargé à plein. Ouais, tout le monde n'a pas pu monter à bord. Il y en a qui essaient encore des dernières tractations, apparemment.
Il y a des discussions, des engueulades, des.
Et peut-être aussi des adieux aussi, hein.
Des gens peut-être qui ont accompagné d'autres et qui se quittent. Mais c'est un spectacle incroyable. Au bout de cette île, complètement désolée, il y a deux, trois palmiers là à contre-jour. Il fait une chaleur terrible avec des nuages de plomb au-dessus de l'eau. Et il y a ce bateau, donc cette coque de noix, hein, qui fait 7 mètres de long. On vient de nous dire 7 mètres. Il y a deux moteurs, deux pilotes. Et on n'arrive plus à compter les têtes là parce qu'on est trop loin. Mais on voit des tas de petits points noirs et c'est des têtes. Alors il y a facilement 30 personnes qui vont se lancer dans cette traversée. Il y a des gilets de sauvetage, il y a quelque chose. Il n'y a pas de gilets de sauvetage. Et la plupart des gens qui sont là savent pas nager.
Regarde. On voit presque plus le bateau maintenant tellement il s'est enfoncé.
Et voilà, le bateau va partir, coque de noix sur des flots incertains, dans un scintillement, on va les voir peu à peu, s'éloigner. Des scènes comme ça, on en voit un peu partout dans le monde. On en voit en Méditerranée, entre la Tunisie et Lampedusa, on en voit partout. On en voyait il n'y a pas si longtemps, entre, et ça doit continuer, je pense, entre Haïti et Cuba, par exemple. Enfin, les Boat People, on se souvient de ces images. Sauf que là, c'est aujourd'hui, c'est en France, Mayotte, c'est la France. Et ça peut pas tout à fait nous laisser indifférents. Traversée de clandestins, c'est toute une activité, depuis la fabrique des bateaux, depuis on a vu les passeurs, l'autre jour on a discuté avec deux passeurs pour qui c'est vraiment un revenu, un boulot, et qui se font quelques bénéfices quand même si les risques sont très grands de se voir confisquer le bateau, ou de se faire arrêter, de se retrouver en prison, c'est possible, parce que c'est quand même tout à fait tout ce qu'il y a d'illégal. Alors il y a les passeurs, et puis il y a aussi les pilotes, c'est-à-dire les passeurs sont ceux qui organisent la traversée. Et puis il y a les pilotes, ceux qui montent à bord de ces, qui conduisent, qui dirigent ces frêles embarcations. Il y a deux moteurs et il y a deux pilotes qui maîtrisent ces deux moteurs, qui conduisent ces deux moteurs, et puis les passagers qui sont à bord, habillés beaux, comme on l'a dit, parce que pour passer inaperçus en arrivant à Mayotte, où comme chacun en Joanelle l'imagine, tout le monde est habillé beau. Et voilà, une rencontre avec certains de ces pilotes, l'un de ces pilotes en tout cas, Hamoud, sur cette plage de Chiroroni. Comment tu t'appelles ?
Mansoub Ahmed.
Mansoub Ahmed.
Ahmed. Toi, tu es pilote.
Eh ouais. On dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez.
Je veux amener une vedette d'ici, aller à Mayotte, parce que c'est le seul moyen qui me permettra de gagner des sous.
Donc dans un moment, là, il y a le bateau qui est là, et vous allez partir à bord de ce bateau.
Et moi.
Oui.
Ah, qui part aussi? Quels sont ceux qui partent avec toi?
Hein? Tout le monde là.
Tous. Toi, tu pars aussi?
C'est-à-dire, lui, il va pas partir aujourd'hui. Mais il veut que la France vienne ici parce qu'il finira par partir aussi. De quoi manger parce que là c'est là.
Alors toi pourquoi tu vas là-bas?
Je veux de l'argent parce que ici il y a trop de souffrance, il y a trop de misère. C'est pourquoi je fais ces voyages.
Rangou 88, tu n'as pas de.
Depuis 88, tu fais les allers-retours.
Ouais. Mmh.
J'ai fait 5 fois à Machkavo, la prison de Mayotte. La première fois, j'ai fait 8 mois. Deuxième fois, j'ai fait 1 an. Troisième fois, j'ai fait 15 mois.
Et 12 mois.
Et la quatrième fois, j'ai fait 1 an.
Et
la cinquième fois, j'ai fait
18 mois.
Et pourquoi? Pour quel motif? Qu'est-ce qu'on t'a trouvé comme motif?
Si quoi ma timingi quoi ça na wana damu moni na ko ide sirka lingi maure na siku.
Le motif? J'ai amené un quoi ça avec des gens. Je suis rentré illégalement à Mayotte.
Tu gagnes ta vie quand même comme pilote.
Mes chers, vraiment franchement. C'est là où je gagne.
T'as combien d'enfants?
8 enfants.
8 enfants. Et t'as combien de femmes?
Wararu.
3 femmes, 8 oui. Enfants, t'as 11 personnes à faire vivre.
Oui.
Bravo. Non.
Encore mes soeurs.
On parle comme la cita.
Facilement 16 personnes.
Qui fait vivre 16 personnes, voilà. Voilà, pilote a une activité dangereuse. Et morale, hein, faut bien dire, pas toujours morale. N'oublions jamais qu'on n'est jamais aussi bien exploité que par son propre frère. Et en jouant, cette règle, elle est appliquée comme partout ailleurs, mais peut-être un peu plus durement et un peu plus cruellement en ce moment. Un autre de ces pilotes rencontrés sur cette plage.
Alors une fois, je suis parti d'ici, j'ai ramené des passagers qui voulaient aller à Mayotte. Au retour. Les deux machines sont tombées en panne. J'ai fait un mois en mer et puis je suis arrivé à Madagascar.
Un mois en mer?
Oui.
Et qu'est-ce que tu as mangé?
Matin mélangé machine.
De l'huile mélangée de la machine, moteur. Quoi, de huile moteur.
Tu as mangé de l'huile moteur?
Oui.
Ça fait personne te croit.
Ils sont tous en train de rigoler. Quelqu'un qui mange de l'huile, vraiment, c'est un peu bizarre.
Ah, c'est un peu bizarre, oui. Pendant un mois.
Pendant un mois. Et c'est vrai.
C'est-à-dire, t'as, t'as pas pêché les poissons?
Ils n'avaient pas amené de ligne. Ils n'avaient rien à bord. Donc il n'y avait que de l'huile de moteur. Alors qu'est-ce qu'ils pouvaient manger?
Bah, en tout cas, ça t'a réussi parce que t'es un beau garçon. Hein.
Oui.
Et qu'est-ce que t'as fait une fois arrivé à Madagascar?
On a un peu joué dans la colonie, moi aussi.
En fait, le bateau a dérivé jusqu'à près des côtes de Madagascar et puis il a été repêché là.
Et qu'est-ce que tu buvais comme eau?
Les malambas, juste au Akapara Vobaharim.
Après, ils ont eu la pluie. Donc, l'eau amassée dans le barque,
voilà.
Ça leur a servi d'abord.
Voilà, de l'eau et de l'huile.
Oui, oui. Voilà.
Comme quoi, alors maintenant, vous emmenez des cannes à pêche.
Ah,
maintenant, quand on part, on amène 20 litres d'eau. Depuis, on amène 20 litres d'eau.
Voilà, de l'huile, de l'eau et puis de quoi pêcher.
Mmh.
Et des litchis. Alors, on est en train de rigoler. Là, vous allez partir maintenant?
Oui, on a complètement changé d'heure de départ ici parce que la police de Mayotte savent que quand on décolle ici à une heure, c'est à 7 heures qu'on rentre là-bas. Donc, on a changé complètement.
Ah, ils étaient au courant que vous alliez partir à une heure?
Oui.
Donc, vous allez partir plus tard?
Oui.
Comment ils sont au courant?
Quand on décolle ici, un téléphone passé, voilà, ils sont...
Il y a des tops partout.
Partout. Jala more,
jala more,
jema uno ala more,
jala more,
jamu ala more,
jala more,
kasizano ala more,
jala more,
autele maisha mbofu asubuturenga kwasa kwasa,
jala more,
autele maisha mbofu asubuturenga kwasa kwasa,
jala more.
Pour l'instant, les brochettes se préparent.
On est bien là quand même. Hein.
Ça, c'est une petite cabane.
Ouais.
Chez le brochettier.
Oui, oui, c'est ça.
Ouais.
Comment s'appelle la dame?
Zenabou Madi.
On est chez les brochettes de Zenabou Bissiri. Voilà. C'est tout petit. C'est une case. Il y a juste des feuilles de palmiers au-dessus de nous. Et puis il pleut, c'est délicieux. Qu'est-ce que je vois par la fenêtre? Je vois du brouillard, c'est extraordinaire, ça fait de la fraîcheur, c'est très bon. Il y a un régime de bananes qui se balade, on nous prépare les brochettes. On est très très bien et on va raconter ta vie.
Oh, oui. Oh,
ouais. Toi, t'es un héros. On a beaucoup entendu parler de toi. Dis-moi comment tu t'appelles.
Moi, je m'appelle Ibrahim Hussein, dit Braza.
Braza. Quand est-ce que tu étais à Mayotte et comment tu es parti là-bas? Comment t'es arrivé là-bas?
Moi, je vais là-bas, Mayotte, premièrement, Kwasa-Kwasa.
Ah, Kwasa-Kwasa, ouais.
Voilà. 95. J'ai fait trois fois, parce que je vais là, 95. La police, il m'a taqué, il m'a envoyé ici en juin. J'y retourne encore. En 95, l'an 2000, je retourne encore. L'an 2005, je retourne encore. Oui. Ici, l'an 2005. Je fais une manif là-bas, j'ai organisé la population là-bas, je fais une manif.
T'as donc fait une manif?
Non, le manifeste.
À Mayotte.
À Mayotte, voilà. C'est moi qui ai organisé le manif.
En septembre dernier.
Voilà.
Ah, les fameuses manifs dont on a parlé en France et partout, c'est toi.
Oui, c'est moi.
C'est toi le responsable.
Oui, c'est moi le responsable.
On a mis la main dessus.
Oui.
Et on a mis la main sur les brochettes de début de Madame Zinabou, délicieuses brochettes. Alors oui, voilà, on est avec Braza, il vient de tout vous expliquer. En septembre dernier, il y a eu des manifs à Mayotte, des manifs de clandestins, des clandestins qui veulent se défendre, ne veulent pas être envoyés comme ça, comme les 8000. L'an passé, c'est 8000 qui ont été renvoyés. C'est un sport national, cette histoire d'aller et venu sur ces bateaux. Je rigole, c'est idiot, parce que c'est quand même dangereux. On a évoqué le nombre de morts. Et notre vaillant ministre de l'Intérieur a dit 8000, c'est pas suffisant. Il faut, vous devez en renvoyer 12000. Alors, hop, on a mis des nouveaux policiers, des nouveaux gendarmes, des nouveaux douaniers, un radar, et puis sans doute qu'on envisage de construire un mur de béton autour de l'île, dessous, partout. Il y a cette technique-là, quoi, c'est-à-dire la technique du gourdin, de l'enfermement, de la répression et de la violence. Et puis il y a évidemment, c'est-à-dire punir les pauvres, quoi. Puis il y a peut-être des solutions qui consistent à dire, mais pourquoi viennent-ils si nombreux? Alors il y a quand même peut-être la pauvreté qui est à l'origine de ça, et puis il y a ce contentieux historique qu'il faut rapidement rappeler et que les autorités comoriennes n'ignorent pas, évidemment, c'est que au regard du droit international, la partition de l'archipel des Comores par la France en 1974 est illégal. Et les Comoriens, nos amis avec qui nous sommes, sont chez eux à Mayotte. C'est ce qu'ils considèrent eux-mêmes et ce que considère aussi quand même le droit international, les Nations Unies, ce qui n'est pas rien. Alors voilà une discussion autour de ces brochettes entre, vous allez voir, différentes façons d'aborder la question, et on commence évidemment par l'agitateur Braza.
Qui a donc organisé cette manif à Mayotte.
Oui.
Il y avait beaucoup de monde.
Oui, il y avait beaucoup de monde. Même le journaliste, il a dit il y a 700.
Qu'on a 700 personnes.
700 personnes qu'on
700
a
700 personnes à Mayotte.
Ensuite, la police municipale, il a déjà dégagé l'autre. Il a barré à Mamoudzou. Le gens qui vient à la brousse, il ne vient pas.
Ah, ils ont empêché les gens de la brousse,
voilà,
de venir à Mamoudzou, voilà. C'est-à-dire la capitale.
Voilà.
Et toi, tu as été arrêté?
Non, moi j'ai fait les manifs, j'ai fait depuis 7h jusqu'à 1h30, on a fait le manif, le journaliste à Mayotte, il était là, la police, il était là. Et puis, le préfet, il a envoyé les gendarmes, il a dispersé les gens, on a retourné chez nous. Troisième jour après, la police, il vient m'arrêter chez moi. Il vient m'arrêter avec le menace, avec le tir, avec tout ça, bon. Il m'apprend, il l'a envoyé ici en juin. Il m'a attrapé là-bas, il m'a envoyé ici en juin. Moi, j'ai organisé le manif parce que il y a beaucoup de problèmes qu'on a vus dans notre pays. Il y a beaucoup de souffrances qu'on a eues à Mayotte. Il y a beaucoup de gens qui prennent les hommes comme les animaux. Ils menacent trop. Et puis, moi, j'ai organisé la population comorienne qui habite à Mayotte. Moi, je dis, si nous sommes à Mayotte, nous sommes aux Comores. Si nous sommes à Mayotte, nous sommes français parce que notre île, notre partenaire, c'est la même partenaire. Mm-hmm. C'est la même langue. Donc, nous faisons une manifestation pour dire notre partenaire que nous sommes le français, comme les Maoris, ils sont français. Parce que la France, il est comme, il prend les moitiés comoriens, il a protégé. Le moitié comorien, il a laissé. Il a laissé pour qui?
Donc, alors, toi, ton idée, c'est que la France revienne ici.
Voilà.
C'est ça.
Il faut la France, il faut vienne ici.
Et alors, pourquoi pas à Moélie? Pourquoi pas dans les grandes Comores? Partout.
Moi, je dis seulement ici en juin parce que moi, je sais pas les grands Comores comment ils pensent. Je sais pas les Moélie comment ils pensent. Je sais pas. Mais d'après nous, les Anjouanais, on dit notre part.
Alors, tu dis que tu veux que la France revienne à Anjouan, mais ça veut dire que tu veux que Anjouan soit à nouveau colonisé.
Non, oui, c'est pas comment. Mais première chose, nous voulons la France pour discuter, pour rester à la même table, pour discuter ensemble avec notre partenaire. Comment nous ferons? Parce que c'est le partenaire. Il n'y a pas d'autre partenaire pour nous.
Les brochettes de zébus sont prêtes. Les brochettes de zébus sont prêtes à la fois.
Dis-moi.
Alors l'hymne comorien, vous avez douté là qu'on l'entend dans le secteur, et puis voilà, on est toujours autour de ces délicieuses brochettes chez Madame Zenabou, et on est avec Hamid. Lui, il a été clandestin pendant 10 ans à Mayotte, clandestin. Qu'est-ce que tu faisais là-bas pendant ces 10 ans?
Pendant 10 ans, moi j'étais là en cachette. Je ne fais rien, je cache, je fais le cache-cache. Quand je trouve quelqu'un qui me donne un peu de quoi faire, ou bien pour avoir seulement à manger et à donner à mes enfants.
Quel genre de petit boulot tu faisais?
Je fais de petits jardiniers comme ça.
C'est là-bas que tu as appris le français comme ça? C'est à Mayotte que tu as appris le français?
J'étais un enseignant de l'école primaire.
Voilà, donc tu étais enseignant de l'école primaire, c'est ça? Voilà. Et donc tu es parti à Mayotte pour vivre moins mal.
Les conditions ne me permettent pas de...
Voilà. Ça, c'est le genre de drame, tu vois, parce que tu as quelqu'un qui est indispensable au pays, un enseignant, qui le pays s'appauvrit, il peut pas bouffer, et il s'en va. À Mayotte, on n'a pas besoin de toi comme instituteur, il y en a déjà. C'est voilà, ici, c'est oui, indispensable. Voilà, oui. C'est indispensable que des gars comme toi, effectivement, puissent rester ici, puissent travailler ici et être utiles ici au pays, quoi.
Si aujourd'hui un instituteur choisisse d'aller à Mayotte faire des petits boulots que de rester chez lui, c'est tout simplement parce que les conditions de vie n'arrangent pas les choses. Un instituteur qui reste par exemple 5 ou 6 mois sans être payé, quand même, c'est la fuite des cerveaux, c'est normal. Parce que bon, il y a beaucoup d'Anjouanais ou de Comoriens en général qui vivent à l'extérieur et qui ont vraiment de la matière grise, et de la matière grise qu'on perd parce que on n'arrive pas à mettre les hommes politiques qu'il faut pour pouvoir diriger le pays.
C'est pour ça que tu restes ici, toi?
Moi, j'ai choisi. Bon, parce que chacun a sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Moi, ma façon de concevoir les choses, c'est ne pas fuir le problème. C'est-à-dire, je reste ici, je sais qu'il y a problème. Moi, par exemple, si je vous parlais de mon expérience, vous n'en croirez pas. On me pousse justement à fuir. Parce que normalement, je ne peux pas résister longtemps. Je peux pas avoir une femme, avoir des enfants et me dire, voilà, je reste là. Mais bon, j'ai fait ce choix-là. Je me suis dit, bon, je suis patriote. Si mes parents ont choisi l'indépendance, je respecte ce choix. De façon, être colonisé, pour moi, c'est une honte. Si aujourd'hui, nos amis maorais choisissent rester français, moi, je crois que c'est hypocrite. Parce que en fait, ils veulent pas être français. Ils veulent
l'argent
de la France. Et non être français. Même s'ils ne travaillent pas, ils gagneront quand même des allocations. C'est seulement ça qui retiennent les Maorais qui se disent, voilà, nous on veut rester français. C'est une question d'intérêt. Donc, si je ne sais pas si vraiment les Comoriens ou les Anjouanais en particulier méritent le traitement que les Maorais leur infligent. Tout simplement parce que ici à la misère, ils vont chercher la vie là-bas, ou on y va pour voir la famille, ou on va pour chercher la santé. Donc qu'on les traite des sans-papiers, qu'on les insulte, qu'on les dise que voilà, ils sont encombrants, je trouve que c'est un peu exagéré.
Alors, quel est ton nom?
Moi, je m'appelle Salaf Demoussa. Par rapport à ce que mes amis ont dit, on voit la France, la devise de la France, on dit que c'est un état de droit. Et par rapport à ce qui se passe à Mayotte, on nous prend comme des cons, peut-être que l'égalité, on comprend pas l'égalité. Parce que même vous êtes clandestin, tu es sans papier, mais tu as droit à la justice, tu as droit à la santé. La France est injuste. Moi, je sais très bien que le Congo, c'est un ensemble de 4 îles. Et ça, c'est pas mon grand-père qui m'a enseigné ça, c'est la France. Et maintenant, c'est lui qui m'a enseigné, vient de me dire que c'est 3 îles, c'est ridicule. Et il me chasse de chez moi, et là, où j'y vais moi?
Alors ça fait 4 points de vue différents. Il y a celui qui veut pas être français, qui veut l'unité des 4 îles. Il y a celui qui dit il faut que la France revienne et recolonise, ou presque, Anjouan, et puis que le statut d'Anjouan ressemble à celui de Mayotte. Hein, ça c'est ton point de vue à toi. Toi c'est je reste à Anjouan parce que je suis un patriote et je veux qu'Anjouan se développe en tant que tel. Et toi, ton point de vue? Comment on peut résumer?
Je veux être indépendant avec coopération réelle et amitié réelle avec la France. Il faut que la France soit ici avec nous, travailler ensemble, développer ensemble notre pays, car nous sommes français.
Est-ce que de l'intérieur du pays, avec 4 personnes comme vous, est-ce qu'il n'y a pas l'amorce d'un mouvement politique qui peut mobiliser la population pour demander des comptes, aussi bien à la France, pour faire pression effectivement sur la France, pour faire pression aussi sur votre gouvernement? Est-ce qu'un tel mouvement existe?
Bon, il va falloir qu'un jour, quand même, on se ressaisisse, on se dise, voilà, il faut pas aussi se dire que à chaque fois, on dit c'est la France qui est responsable. Pour moi, je suis pas là. Moi, je dis, si on veut vraiment faire changer les choses, on doit commencer de l'intérieur. C'est dire, nous sommes indépendants, ça, on n'y peut rien. Maintenant, il faut montrer aux gens que ça doit changer. Anjouan, quand en 97 a voulu,
t'entends le cop gaulois,
a voulu être attaché, disons, à la France, on sait que de nos jours, ça peut pas se faire. Anjouan ne mérite pas quand même d'être recolonisé, c'est quelque chose d'impossible, même si aujourd'hui, les autorités françaises veulent démontrer une autre face, disons, de cette page. Parce que bon, aujourd'hui, quand on dit que dans la colonisation, il y a eu des bienfaits, moi, je crois que la meilleure des choses, c'est peut-être donner raison à Brazza et dire aux autorités françaises, revenez un petit peu avec les moyens qu'il y a maintenant, recoloniser Anjouan, on verra bien ce qui sera. Mais moi, personnellement, je ne le permettrai pas parce que je suis fier d'être indépendant, même si aujourd'hui, il n'y a pas cette volonté politique pour changer les choses. Mais je ne désespère pas, je sais qu'un jour ou l'autre, il y aura des changements.
On n'a pas fait parler la dame, hein.
C'est des vrais
machos, hein.
Voilà.
C'est quand même terrible. Elle nous a fait à manger, elle nous a fait des brochettes, elle nous reçoit dans son grand restaurant. et elle parle pas.
Alors,
je m'appelle Zainabou Oumadi.
Zainabou. Alors, vous êtes allé là-bas à Mayotte. Vous avez vécu à Mayotte.
J'ai vécu là-bas, c'est d'ailleurs là-bas que j'ai appris à faire des bonnes brochettes.
Vous avez de la famille là-bas, des enfants, des amis?
Moi, je n'ai aucun enfant à l'heure actuelle à Mayotte. J'avais juste 2 enfants et il y a une fille d'ailleurs qui est morte en voulant traverser justement pour Mayotte.
Vous avez une fille qui est morte en voulant traverser pour aller à Mayotte?
Ma fille est partie d'ici, je ne peux pas vous donner les détails parce que je n'étais pas avec elle, mais ce que je sais qu'elle est partie d'ici pour aller à Mayotte, par
quoi ça.
Ils n'ont même pas fait 20 mètres de la côte que une vague justement a fait chavirer le bateau. Et elle est morte donc sur le coup. C'était l'année dernière.
Ici, sur la côte, ici.
Chiroroni. Le Chiroroni.
C'était à Chiroroni, là où il y a le récif.
Vraiment, là, c'est le radeau de la Méduse, là, ce qu'on voit sous nos yeux. C'est le radeau de la Méduse. Ils s'éloignent un peu du bord, ça y est. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont partir ou pas?
Ça, ils partent pour aller se faire exploiter, pour aller se planquer, pour aller raser les murs et travailler pour une bouchée de pain. Mais ça fait marcher l'économie locale de Mayotte.
Ben oui.
À tel point qu'il y a des membres des syndicats agricoles qui demande qu'on régularise cette main-d'œuvre dont dépend l'économie locale.
Ouais, il y a des engueulades et des tensions. C'est pour ça que le bateau ne part pas encore. Parce qu'il y a plus de gens qui attendent pour partir que de place. Sauf qu'ils ont tous payé, quoi.
Alors, ils sont en train de s'engueuler. C'est
overbooké, quoi.
Voilà, ça y est, pas.
Ça y est, voilà, le bateau est parti. Il est vraiment à ras-bord, on peut dire vraiment à ras-bord. Il y a tous ceux qui restent sur la grève, là, qui ne sont pas partis. Regarde, il y en a bien 15 ou 20 qui ne sont pas partis, mais à bord, on ne peut pas savoir, on ne peut pas estimer le nombre d'ici. Ça s'appelle, ce qu'on voit là est un cercueil flottant. Hein, c'est un cercueil flottant. Au moindre pépin, la moindre vague, le moindre écueil, le moindre rocher, ou alors là, le lagon, hein, la barrière, c'est la mort. Voilà, il s'éloigne d'un scintillement, on voit plus rien là. Presque plus rien.
Zainabou Braza, Hamid Hussein, Moussa, Hamid Abdou, Omar et Anfani, Nassou, Djelani, Rémi Kareyol. Merci. Merci à Pierre-Paul Nanners, consul honoraire à Anjouan. C'était un reportage avec Guy Vanctil. Traduction Kamal Ali Yehuda. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission La Basse Ujissuit. Technique aujourd'hui, Sophie Moreno et Patrick Henry. C'est Antoine Chao, Yann Chouquet et Raphaël Moutet qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Pascal Le, Pascal Yello et Christophe Imbert pour le répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37 et le mail de l'émission c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Réclame.